Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant, les ados, les écrans, les réseaux sociaux. C'est complexe, ça inquiète beaucoup de monde.
Oui, bonjour. Et pour essayer d'y voir plus clair, on va s'appuyer sur une conférence vraiment éclairante de Stéphane Corr, vrai spécialiste des questions numériques. Il décortique les usages, les opinions, ce que dit la science et donne aussi des conseils très pratiques.
Notre but, c'est donc de démêler un peu tout ça. Ensemble, distinguer les peurs parfois un peu irrationnelles des faits avérés, pour avoir une vision plus juste, plus équilibrée de l'impact du numérique.
Et d'ailleurs, pour commencer, un chiffre qui a fait pas mal de bruit récemment, un sondage en Suisse montrait que 80% des adultes voudraient interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans.
Ah oui, j'ai vu passer ça.
Mais le hic, si on peut dire, c'est qu'on n'a pas posé la question aux premiers concernés, les jeunes de moins de 16 ans.
Incroyable. C'est exactement le genre de biais qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Bon, alors commençons par les usages. Qu'est-ce que les ados font vraiment en ligne d'après la conférence?
Alors, les données que Stéphane Corr présentait montrent que TikTok et Instagram dominent pour ce qui est de regarder du contenu, d'interagir publiquement. Par contre, pour les messages privés, les discussions entre amis, ça reste plutôt Snapchat et WhatsApp.
D'accord. Et en face de ça, on a ce fameux sondage AXA avec cette volonté d'interdiction massive chez les adultes suisses. Vous avez mentionné qu'on n'a pas interrogé les jeunes, mais Stéphane Corr pointait d'autres soucis dans la méthode, c'est ça?
Oui, absolument. Et c'est là que ça devient, révélateur. Prenons l'interdiction spécifique de TikTok, que presque la moitié des sondés réclament.
Oui, 48%.
Eh bien, parmi ceux qui veulent l'interdire, seuls 21% utilisent vraiment TikTok. C'est-à-dire que leur opinion est basée sur quoi? Surtout sur une image médiatique, souvent négative, anxiogène, plutôt que sur leur propre expérience.
Le jugement sans savoir, un grand classique. Et pour l'interdiction générale, ces fameux 80% qui veulent interdire tous les réseaux aux moins de 16 ans?
Alors là, c'est encore plus frappant. Contrairement à la question sur TikTok, l'étude n'a pas demandé à ces 80% d'adultes s'ils utilisent eux-mêmes les réseaux sociaux. Donc, on ne sait pas si ce chiffre vient de gens qui connaissent ou pas du tout ces plateformes. C'est quand même un gros manque pour interpréter ce chiffre, non?
Ah oui, clairement. Ça montre bien le fossé qu'il peut y avoir entre l'opinion. On pense aussi à une autre enquête française où 96% disaient que les réseaux sociaux abîment la santé mentale des ados. Et puis, les faits établis par des études sérieuses. On a vite fait de tomber dans le biais de confirmation. On croit ce qui nous arrange, ce qui confirme nos peurs.
Tout à fait. Et Stéphane Corr fait un parallèle historique que je trouve très intéressant. Cette angoisse de l'intoxication numérique, ça ressemble beaucoup au discours de la fin du 19e siècle sur l'intoxication littéraire.
Ah bon?
Oui, on craignait que les jeunes lisent trop, que ça les démoralise, que ça nuise à leur santé mentale. Comme quoi?
Comme quoi la peur de la nouveauté technologique et de son effet sur les jeunes, ce n'est pas d'hier. Donc, pour aborder ça plus sereinement, il faut déjà être conscient de nos propres idées reçues et comprendre que pour les ados aujourd'hui, le monde physique et le monde numérique, eh bien, c'est tout le temps mélangé, ce n'est pas séparé.
C'est exactement ça. Donc, si on devait faire un premier petit point, méfiance vis-à-vis des chiffres bruts des sondages. Toujours se demander qui a répondu, connaissent-ils vraiment le sujet ? Et surtout faire la différence entre une opinion, même majoritaire, et un fait scientifique établi. C'est la base pour éviter les paniques morales.
Alors justement, allons-y. Que dit vraiment la science? La conférence a mis en garde contre la confusion entre certains livres qui font beaucoup de bruit et la recherche académique. L'exemple donné, c'était « Génération anxieuse » de Jonathan Haidt.
Oui, point très important. Stéphane Corr a bien relayé les critiques scientifiques sérieuses contre ce livre. D'abord, Haidt, c'est un psychologue social. Oui, mais pas un spécialiste de l'épidémiologie psychiatrique ado. Ensuite, et c'est le fond du problème, ses conclusions très fortes sur le lien direct entre smartphones, réseaux sociaux et l'explosion supposée de l'anxiété, elles manqueraient de preuves solides.
On lui reproche d'avoir un peu choisi des données qui allaient dans son sens, le fameux cherry-picking, et surtout de confondre corrélation et causalité. C'est pas parce que deux courbes montent en même temps que l'une est la cause de l'autre.
Exactement. Le fait que des jeunes qui vont mal passent plus de temps sur les réseaux, ça ne prouve pas que ce sont les réseaux qui les rendent malades. Peut-être qu'ils s'y réfugient à ce qu'ils vont mal. Ou alors, il y a d'autres facteurs derrière tout ça. D'ailleurs, Koch soulignait que le livre oublie de dire que les troubles psy ont aussi augmenté chez les adultes pendant la même période.
Et pourtant, ce livre a eu une couverture médiatique incroyable, souvent sans mentionner ses critiques d'experts reconnus, comme cette chercheuse Candice Lyne Hodgers qui a publié dans Nature.
Voilà le nœud du problème. Hodges et beaucoup d'autres chercheurs qui travaillent là-dessus depuis des années arrivent à des conclusions bien plus nuancées. En fait, des centaines d'études montrent des liens plutôt faibles, parfois même inexistants, ou en tout cas pas systématiques, entre le temps passé sur les réseaux et la dépression chez les jeunes.
Et quand on trouve des liens, ça suggère plutôt ce que vous disiez. Ce sont les jeunes qui ont déjà des problèmes de santé mentale, qui utilisent peut-être ces plateformes différemment ou plus. Ça peut amplifier un mal-être, mais ce n'est pas forcément la cause première.
C'est ça. Plusieurs méta-analyses, ces grandes études qui regroupent plein d'autres études, confirment qu'il n'y a pas de lien fort et généralisé. Il y en a même une immense sur 72 pays qui n'a pas trouvé d'association claire entre le bien-être général d'un pays et l'arrivée des médias sociaux.
Et même les études qui suivent le cerveau des ados sur le long terme, comme l'étude ABCD aux États-Unis, n'ont pas montré les changements radicaux qu'on craignait à cause des écrans.
Et Cork a présenté plusieurs études récentes qui vont dans ce sens. Une étude d'Oxford sur 12 000 jeunes, pas d'impact négatif majeur trouvé sur le cerveau. Une étude américaine qui montre même que les jeunes avec smartphone disent aller mieux et avoir plus d'amis. Une autre qui dit que faire une pause des réseaux n'a pas d'effet clair sur le bien-être.
Même l'interdiction des portables à l'école, au Royaume-Uni, ça n'aurait rien changé, ni pour la santé mentale, ni pour les notes, selon une étude. Et ici en Suisse, ProJuventus a montré que pour les 14-25 ans, le stress vient d'abord de l'école, de la pression de réussir, de l'avenir, du climat, bien avant les réseaux sociaux.
Mais attention, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Une méta-analyse de méta-analyse, imaginez une synthèse de 102 synthèses sur presque 2 millions de personnes, apporte des nuances importantes. Le message clé qui en ressort, c'est que le contenu qu'on regarde est beaucoup plus important que le temps qu'on passe devant l'écran.
Ah, et l'accompagnement des parents est crucial aussi. Le fait d'être là, de regarder ensemble, ça peut même rendre l'expérience positive. Il y a donc des effets bénéfiques possibles, surtout avec des contenus éducatifs.
Tout à fait. Mais il faut quand même rester vigilant, notamment sur l'effet de la pub, des influenceurs. Et puis, la recherche a encore ses limites. On manque de recul sur le très long terme. Les définitions changent, les cultures aussi. Une étude américaine, ce n'est pas forcément pareil ici.
Bon, si on résume ce que dit la science, elle ne confirme pas les discours alarmistes qui lient directement réseaux sociaux et mauvaise santé mentale généralisée. On confond souvent corrélation et causalité. Ce qui compte vraiment, ce serait plutôt le contexte, le contenu et surtout l'accompagnement des parents, bien plus que le nombre d'heures passées devant l'écran. Mais il faut continuer à chercher, bien sûr.
Exactement. Et ça nous ramène à la question, alors, on fait quoi ? Interdire ou accompagner ? On revient à cette idée d'interdire les réseaux aux moins de 16 ans, que certains politiques suisses défendent en citant l'OMS.
Oui, mais d'après Stéphane Koch, ils interprètent mal cette étude de l'OMS. Qu'est-ce qu'elle dit en réalité ?
Elle ne recommande pas du tout l'interdiction. Au contraire, l'OMS dit qu'il faut réguler les plateformes pour qu'elles soient plus sûres, accompagner les jeunes, investir dans l'éducation numérique à l'école, améliorer l'accès aux soins psy à si besoin, encourager le dialogue, former les adultes et responsabiliser les entreprises du numérique.
Et l'OCDE dit la même chose apparemment dans un rapport récent.
Oui, très clairement. L'OCDE affirme que l'interdiction, ce n'est pas la bonne solution. Le numérique fait partie de la vie des jeunes. Les en priver, ça les empêcherait d'apprendre des compétences dont ils auront besoin et ça ne règle pas les problèmes de sécurité en ligne. L'OCDE insiste aussi sur le rôle clé des parents et des adultes pour les guider et rappelle que ces plateformes, ce sont aussi des lieux pour s'amuser, apprendre, trouver de l'aide parfois.
Face à ça, quelle alternative a été proposée pendant la conférence, plutôt qu'un âge couperet ?
L'idée serait une approche basée sur la maturité, évaluée par les parents. Pour s'inscrire sur un réseau avant 16 ans, il faudrait l'accord explicite des parents. Et cet accord signifierait que le parent s'engage à accompagner activement son enfant, discuter, fixer des règles ensemble jusqu'à 16 ans. Avec même la possibilité de faire suspendre le compte si ça dérape.
Et en même temps, il faudrait renforcer l'éducation au numérique à l'école, c'est ça ?
Oui, une vraie éducation progressive avec des compétences reconnues pour que tous les jeunes aient les mêmes bases.
D'accord. Donc, troisième point. Les grandes organisations et les experts semblent d'accord pour dire que l'interdiction seule n'est pas la solution. Il faut plutôt un ensemble de choses, réguler les plateformes, éduquer, accompagner, responsabiliser tout le monde, y compris les parents. Et cette idée d'un accès basé sur la maturité et un accompagnement renforcé, c'est une piste.
Alors justement, allons voir ce que font réellement les jeunes pour casser quelques idées reçues. On dit souvent qu'ils sont passifs devant leurs écrans, qu'ils ne lisent plus, qu'ils n'écrivent plus.
Alors que les chiffres d'une étude, James 2024, montrent que lire ce que les autres postent et écrire des messages privés, ce sont parmi leurs activités principales. Et une autre étude qualitative française a montré qu'en dehors de l'école, ils écrivent énormément sur ce qui les motive, y compris des textes longs, créatifs, comme les fanfictions. L'écriture n'a pas disparu, elle a juste changé de forme.
Stancor a donné plein d'exemples d'usages positifs, même sur TikTok qui est souvent critiqué. Il y a le phénomène hashtag BookTok, des jeunes qui partagent leur amour des livres et font décoller les ventes. Certaines bibliothèques utilisent même TikTok maintenant.
Il a aussi montré des exemples de vulgarisation en sciences, en culture, qui marchent super bien. Un résumé hyper clair de Hannah Arendt, des explications de maths. TikTok a même un fil STEM, science, techno, ingénierie, maths, avec des contenus validés.
Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème avec les algorithmes, les bulles de filtre, évidemment. Mais comme le dit Kolatch, le premier filtre, c'est notre cerveau. Donc, l'important, c'est d'apprendre à naviguer de façon critique. C'est d'ailleurs pour ça que les lois européennes, comme le DSA, qui demandent plus de transparence aux plateformes, sont intéressantes.
Il a aussi dit que les réseaux sociaux sont devenus une source d'infos importante pour trouver un métier, et même pour se faire recruter pour les jeunes générations. Plus que LinkedIn, parfois.
En fait, il faut arrêter de voir l'écran comme une seule chose. Une psychologue citée, Vanessa Lalo, insiste là-dessus. Quel écran? Pour faire quoi? Regarder passivement? Interagir? Seul? Avec d'autres? Et surtout, quel contenu? Cor racontait avoir vu des jeunes dans une gare qui discutaient, puis se montraient un truc sur leur téléphone, puis rediscutaient. L'écran était dans leur conversation, pas à la place.
Même l'idée qu'ils ne bougent plus, c'est à nuancer. Il a montré des exemples de créations vidéo qui demandent de l'activité physique, ou ces challenges de danse où des milliers de jeunes se retrouvent pour répéter et filmer ensemble.
Bref, ce qu'on peut retenir ici, c'est que les jeunes font plein de choses avec le numérique, souvent plus créatives et sociales qu'on le pense. Ils lisent, ils écrivent, ils apprennent, ils créent, ils bougent. L'important, c'est le comment et le pourquoi ils utilisent ces outils. Plus que l'outil lui-même.
C'est la vraie vie. Ce n'est pas un jeu vidéo déconnecté de la réalité.
Absolument. D'abord parce que les émotions qu'on ressent en ligne, la joie, la tristesse, l'angoisse du cyberharcèlement, sont bien réelles. Elles ont un impact physique et psy. Et ensuite, parce que ce qu'on fait en ligne a des conséquences bien réelles, y compris légales. Par exemple, les plaintes pour injures en Suisse ont augmenté de 74% en 10 ans. Pourquoi? Parce qu'une capture d'écran, c'est une preuve.
On est citoyen partout, en ligne comme hors ligne, avec des droits et des devoirs. C'est ça la citoyenneté numérique. Et c'est au programme dans les écoles maintenant. Savoir utiliser les outils, bien sûr, mais surtout savoir se comporter en ligne, respecter les autres, la loi, la dignité humaine.
La liberté d'expression, par exemple, elle a des limites légales en Suisse qui ne sont pas les mêmes qu'aux USA. Korch a cité le cas d'un étudiant condamné pour un message raciste dans un groupe Telegram public. La Commission fédérale contre le racisme le rappelle, aucun droit humain ne peut justifier qu'on porte atteinte à la dignité d'autrui.
Et cette citoyenneté numérique, elle est encore plus importante avec tous les services qui passent en ligne. Le vote électronique, la future identité. D'ailleurs, Koch pense que cette EID pourrait être une bonne chose pour vérifier l'âge en ligne, de façon sûre et anonyme, sans envoyer sa carte d'identité aux GAFAM.
Donc cinquième point clé, le numérique, ce n'est pas un monde à part. C'est une partie de notre vie sociale et citoyenne. Ce qui s'y passe a des conséquences réelles. Apprendre à exercer sa citoyenneté numérique, ses droits, ses devoirs, le respect des autres et des lois, c'est fondamental.
Mais il ne faut pas nier les risques non plus. La conférence a aussi parlé de ça en détail. Le cyber-grooming, la manipulation d'enfants à des fins sexuelles en ligne, ça reste un danger majeur.
Oui, et les prédateurs sont malins. Cor a donné l'exemple d'un expert qui avait créé un faux profil d'ado et qui a été très vite contacté par un adulte utilisant des techniques de manipulation très étudiées. Le danger existait avant Internet, bien sûr, mais le numérique donne aux prédateurs un accès plus facile et plus anonyme aux victimes potentielles. La prévention est essentielle, y compris dans les jeux vidéo où des liens se créent.
Et l'intelligence artificielle, ça ouvre la porte à de nouveaux dangers, encore plus inquiétants peut-être.
Oui, malheureusement, l'IA est utilisée massivement pour nuire, et ce sont surtout les femmes et les enfants qui sont visés. Il y a ces applis qui permettent de déshabiller n'importe qui à partir d'une simple photo. Ça existait avant avec Photoshop, mais l'IA a rendu ça hyper facile et rapide. L'effet d'amplification est terrible. On a vu des cas dans des écoles.
Et l'impact de ces deepfakes sexuels, même faux, est aussi dévastateur qu'avec de vraies photos. Heureusement, en Suisse, la loi protège contre la diffusion d'images sexuelles sans consentement, qu'elles soient vraies ou générées par IA.
Mais ça va plus loin. L'IA est aussi utilisée pour créer et diffuser en masse des contenus pédopornographiques, CSAM. Des images d'enfants entièrement générées par IA, parfois avec des chatbots qui imitent la séduction. Des criminels utilisent l'IA pour modifier des photos d'enfants volées. Certaines IA sont même entraînées sur des contenus d'abus réels pour en créer de nouveaux. C'est un défi immense pour la police qui doit faire le tri entre le vrai et le faux pour aider les vraies victimes.
Un autre usage de l'IA qui pose question, c'est quand les jeunes s'en servent pour parler de leurs problèmes de santé mentale.
Oui, de plus en plus de jeunes, et d'adultes d'ailleurs, se confient à des chatbots type ChatGPT ou des IA spécialisées. Pourquoi ? Parce que l'IA ne juge pas, elle a l'air empathique, elle est là tout le temps, c'est gratuit. C'est compréhensible quand c'est difficile d'avoir accès à un thérapeute.
Mais il y a un risque.
Le risque, c'est de ne pas se rendre compte quand l'IA ne suffit plus, quand il faut vraiment voir un professionnel. L'IA ne comprend pas, elle calcule juste le mot suivant le plus probable. Elle donne une illusion d'intelligence, mais ce n'est pas un psy. Il faut absolument parler de ses limites avec les jeunes.
Ok, donc pour ce point sur les risques IA, ils sont sérieux, ils évoluent avec la technologie, le grooming est toujours là, l'IA est utilisée pour créer des deepfakes, pour harceler, pour produire du matériel pédopornographique à une échelle industrielle. Et son usage pour la santé mentale n'est pas sans danger. Vigilance, prévention, dialogue sont indispensables.
Ce qui nous amène logiquement à la fin de la conférence. Les conseils pratiques pour les parents, les éducateurs, comment on accompagne au mieux ?
Un point important, c'était de faire la différence entre une passion et une addiction. Ce n'est pas parce qu'un jeune joue beaucoup qu'il est forcément accro.
Exactement. Il faut regarder l'ensemble. Comment ça se passe à l'école ? Est-ce qu'il a des amis ? Est-ce qu'il dort bien ? Et quand je donnais l'exemple d'un élève qui jouait énormément, mais tout allait bien à côté, pas d'usage problématique. Par contre, un autre élève qui jouait aussi beaucoup, mais qui avait perdu sa mère et avait des problèmes de comportement, là, le jeu était sans doute un refuge. Dans ce cas, interdire le jeu n'aurait servi à rien. Il fallait comprendre ce qu'il cherchait dans ce jeu pour l'aider. La clé, c'est toujours le dialogue. Qu'est-ce que tu fais en ligne ? Ça t'apporte quoi ? Est-ce que ça pose problème pour le reste ? École, sommeil, amis réels. Tu arrives à arrêter quand tu veux ?
Donc, pour le premier smartphone ou l'accès aux réseaux sociaux, la recommandation, c'est plutôt de se baser sur la maturité de l'enfant que sur un âge fixe, non ?
Oui. Et surtout, d'en parler avec l'enfant, de décider ensemble et de coécrire une sorte de charte d'utilisation, le temps passé, les contenus autorisés ou pas, les règles de sécurité, le respect de la vie privée. C'est bien plus efficace qu'une interdiction que les jeunes arrivent souvent à contourner. Discuter d'un droit de regard, dans la confiance, c'est mieux que d'installer un logiciel espion en cachette. Stephen Corr a d'ailleurs partagé un lien vers des ressources avec des exemples de chartes.
Et le rôle de modèle des parents est primordial aussi, j'imagine.
Ah oui, crucial. Attention à ce qu'on appelle la technoférence. Quand on est sur notre téléphone, pendant qu'on interagit avec nos enfants, ça nuit à leur développement. Et d'ailleurs, une étude a montré que les enfants aimeraient que leurs parents lâchent un peu leurs écrans, qu'ils définissent des moments sans écran pour eux aussi, qu'ils respectent les règles qu'ils leur donnent et qu'ils arrêtent de poster des photos d'eux sans leur demander.
C'est juste. Quels autres conseils pratiques on peut retenir ?
Les bases techniques. Utiliser le contrôle parental, surtout pour filtrer le pire, mais sans croire que c'est magique. Avoir des comptes séparés pour chaque membre de la famille. Ne pas laisser les paiements faciles activés sur le téléphone de l'enfant. Sécuriser les comptes. Mot de passe fort et unique. Avec un gestionnaire, c'est mieux. Double authentification partout où c'est possible.
Et puis, parler des risques.
Oui, parler du grooming, de l'hameçonnage, phishing, de comment protéger ses données, régler les paramètres de confidentialité des applis, avoir un bon antivirus et surtout encourager l'esprit critique face à tout ce qu'on voit en ligne.
Et encore une fois, privilégier le soutien et le dialogue plutôt que l'interdiction systématique.
Sur la question de la pornographie, par exemple, la conférence suggérait d'en parler ouvertement plutôt que de juste bloquer.
Oui, parce que le blocage n'est jamais parfait et ça laisse l'enfant seul face à ça. Mieux vaut expliquer les risques, la différence entre la porno et la vraie sexualité et diriger vers des sites d'infos fiables comme xiao.ch en Suisse. Ne pas utiliser les écrans comme une nounou électronique. Et peut-être penser à une cyberassurance pour couvrir certains risques.
Mais il y a aussi une dimension positive à encourager, non ? Tout à fait. Utiliser le numérique pour apprendre, pour développer son esprit critique, pour devenir un citoyen responsable, pour acquérir des compétences utiles et même pour aider le reste de la famille avec la technologie. D'ailleurs, Kaur a montré que les parents pouvaient aussi utiliser l'IA comme ChatGPT ou Perplexity pour chercher des conseils sur comment gérer les écrans à la maison. C'est un outil aussi pour nous.
Bon, si on essaye de conclure cette exploration très riche, l'accompagnement des jeunes dans ce monde numérique, ça semble être avant tout une question de dialogue, de confiance, de règles qu'on construit ensemble et d'exemples qu'on donne, nous, les adultes.
C'est exactement ça. Il faut être lucide sur les risques, ils sont bien réels et parfois très graves. Mais sans diaboliser des outils qui font maintenant partie intégrante de leur vie et qui offrent aussi de belles opportunités. L'objectif final, c'est de les aider à développer leur esprit critique et à devenir des citoyens numériques responsables et, on l'espère, épanouis.
Le temps file. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette analyse nuancée qui s'est largement appuyée sur les travaux et la conférence de Stéphane Koch.
Et pour prolonger la réflexion, peut-être une question à méditer. Puisque le numérique fait tellement partie de la vie sociale et de la construction de l'identité des jeunes, est-ce qu'en essayant de séparer trop fort le monde numérique du monde réel, on ne risque pas paradoxalement de les fragiliser au lieu de les aider à naviguer dans la société mixte dans laquelle ils vivent ?
Voilà une excellente question pour terminer. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle exploration.